Aujourd'hui, nous traitons du sujet des relations. D'après vous, est-ce que Dieu fait du favoritisme dans ses relations avec les hommes et les femmes? La Bible nous aide à trouver réponse à cette question. Bienvenue à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Claude. Le sujet des relations nous touche droit au cœur parce que nous vivons tous en relation. Les chrétiens sont en relation avec Dieu. Ils ont aussi des relations avec les autres chrétiens. Enfin, ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu sont aussi en relation avec les chrétiens. Mais ce n'est pas facile de vivre des relations saines avec tous. Comment vaincre les obstacles qui nuisent et parfois même brisent les relations? Admettons-le, parfois nous nous trompons. Nous n'avions pas bien compris. L'impression que nous avions nous a joué un tour. Et nous avons lutté de la mauvaise façon ou avec ce qui n'était pas vraiment le problème. Non, il n'est pas facile de vivre en relation. La parole de Dieu nous instruit sur ce sujet des plus personnels en répondant aux questions suivantes. Est-ce que Dieu fait du favoritisme dans ses relations avec nous? Dieu utilise-t-il le même langage avec les employés et les employeurs? Est-ce qu'une personne remplie de l'esprit peut avoir de l'amertume dans son cœur? Un employeur peut-il mépriser son employé s'il veut plaire à Dieu? Quels sont les vrais ennemis du chrétien? Combien de chemins existe-t-il pour trouver solution aux grands problèmes de l'humanité? Quel est le vrai rôle de la théologie, l'étude de Dieu et de son œuvre? Où se livre précisément le combat spirituel dans ce monde? Le chrétien doit lutter contre quoi au juste? Et quel est le rôle de Dieu dans la lutte du chrétien contre le diable? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly se prépare à apporter des réponses tirées de la Bible sur ce sujet. Mais d'abord, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous éclairer, pour bien comprendre ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous maintenant. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. À toi, Régent.
Merci, Claude. À la dernière émission, nous avons vu que les enfants doivent honorer leurs parents et Dieu promet une longue vie à ceux qui le font. Les parents ont le devoir et l'autorité de discipliner et d'instruire leurs enfants. Ils doivent faire cela en priorité. Mais cela doit être fait selon le Seigneur. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Cela peut se faire en les punissant sous le coup de la colère. Si les enfants sont tenus d'honorer leurs parents, les parents ne doivent pas abuser de leur autorité. Ils doivent rechercher le bien de leurs enfants et les élever dans la crainte de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. À la dernière émission, nous avons aussi vu que les employés sont des serviteurs du Seigneur Jésus. Donc, ils doivent travailler le mieux possible pour leur employeur, de bon cœur comme pour le Seigneur. Ils doivent bien travailler en l'absence de leur patron, non seulement en sa présence. L'employé ne doit pas chercher à charmer ou à flatter son employeur. Les employés trouvent leur liberté en Christ Jésus. La nature de l'Évangile condamne l'esclavage. Cependant, le christianisme n'est pas parti en croisade contre la pratique de l'esclavage. Il libère l'âme et l'esprit, ce qui est encore plus révolutionnaire qu'une révolte. Si tous ceux qui se disent chrétiens étaient loyaux envers ceux à qui ils doivent l'être, cela transformerait notre société contemporaine. Aujourd'hui, nous examinons ce que Dieu dit aux employeurs. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Même si vous êtes un employeur, aux yeux du Seigneur Jésus, vous êtes un homme comme les autres. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Dieu a dit aux employés s'applique aussi à vous. Le Seigneur Jésus est votre maître, tout comme il est celui de vos employés. Donc, il y a des responsabilités mutuelles entre les employés et les employeurs. Les employeurs ne doivent pas prendre avantage de leur situation, et ils ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Ils ne doivent pas menacer leurs employés. En présence du Seigneur Jésus, l'employeur et l'employé sont sur un pied d'égalité. Ils sont frères en Christ Jésus. Je vous rappelle que cette épître s'adresse à des croyants. Dieu utilise le même langage avec les employés et les employeurs. Agissez de même à leur égard. Notez l'équilibre que nous retrouvons dans la Bible. Dieu ne s'adresse pas seulement aux employés, il s'adresse aussi aux employeurs, et il leur transmet le même message qu'aux employés. Dans le monde, les messages sont polarisés. Le message adressé aux employés est différent de celui adressé aux employeurs. Il en est ainsi en ce qui concerne tous les types de relations. Si Dieu demande aux enfants d'honorer leurs parents, il demande aussi aux parents d'honorer leurs enfants en ne les irritant pas. L'épître à Philémon illustre bien ce que l'apôtre Paul enseigne. Philémon avait un esclave appelé Onésime qui s'était enfui. Selon la loi de l'époque, Philémon aurait pu le faire mettre à mort. Paul a rencontré Onésime alors qu'il était en fuite et Onésime s'est converti au Seigneur Jésus. Paul renvoya Onésime à Philémon avec une lettre. L'apôtre Paul a dit ceci dans sa lettre. « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. » De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Philémon, les versets 15 et 16. Lorsqu'un employeur et son employé sont tous deux croyants, ils sont frères dans le Seigneur, et cette relation devrait se voir à travers leur partage. Ne me dites pas qu'il n'y a rien de pratique dans le christianisme. Le christianisme est pratique et il obtient des résultats. Un chrétien chinois qui a étudié aux États-Unis a dit « Le christianisme n'a pas été mis en pratique en Amérique du Nord pour ensuite découvrir qu'il ne donne pas de résultats. Le problème, c'est que nous n'avons jamais mis le christianisme en pratique. » Nous avons encore le même problème aujourd'hui. Nous conservons toujours notre christianisme derrière des vitraux. Mes amis, lorsque nous sortirons notre christianisme de nos églises pour l'utiliser dans notre foyer, au travail et dans la rue, nous découvrirons qu'il donne des résultats. Il fonctionnera même dans les relations de travail. La personne remplie de l'esprit n'a pas d'amertume dans son cœur. C'est dans le message et la foi chrétienne que nous trouvons une solution au problème de relations interpersonnelles. Premièrement, les chrétiens sont appelés à être remplis de l'esprit. Ceux qui le sont ne conservent pas d'amertume et de rancœur dans leur cœur. Dans le monde, lorsqu'il y a un conflit entre les employés et un employeur, cela finit généralement avec de l'amertume dans les cœurs. celui qui se fait le porte-parole des employés finit par avoir de la haine dans son cœur, et les patrons le lui rendent. Toute discussion et toute négociation devient difficile. C'est du chacun pour soi. Les deux parties veulent obtenir le plus possible. Un employeur ne doit pas mépriser son employé. Abstenez-vous de menaces. Dans les instructions destinées aux employés, Dieu leur a demandé de ne pas bien travailler seulement lorsque les patrons les voient. C'est la seule instruction négative. Il y en a une négative aussi pour les employeurs. Abstenez-vous de menaces. Dieu interdit aux employeurs de rabaisser et de mépriser leurs employés. Tous deux ont le même maître dans les cieux et ils devront rendre des comptes à ce maître qui jugera sans favoritisme. Les menaces ne se font pas seulement avec des paroles. Un employeur peut utiliser du langage ordurier pour rabaisser un employé et le menacer de représailles. Mais les menaces se font aussi avec du langage non-verbal. Cela peut être un regard menaçant, une attitude menaçante, un geste menaçant. Un employeur doit respecter ses employés. Maintenant, nous abordons le thème de ce chapitre. L'Église est un bon soldat du Seigneur Jésus. Nous avons étudié le comportement des chrétiens dans leurs relations interpersonnelles. C'est dans le foyer que nous avons débuté avec les relations matrimoniales et les relations familiales qui comprennent les enfants. Ensuite, nous sommes sortis du foyer pour considérer les relations de travail. Qu'il soit employeur ou employé, l'enfant de Dieu doit contribuer au bien-être de la société. Maintenant, nous allons examiner l'ennemi du soldat. Un combat se livre présentement. Oui, chers amis, bien des gens oublient qu'ils participent à un combat spirituel. Verset 10 d'Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le chrétien lutte contre le monde, la chair et le diable. Au reste, cette expression n'annonce pas simplement la fin de l'épître, quoiqu'il ne nous en reste plus beaucoup à étudier. Paul veut terminer en présentant une dernière grande vérité. Il a débuté l'épître en résumant les grandes doctrines du salut en Jésus-Christ. Il a présenté les privilèges des enfants de Dieu. Il a invité les chrétiens à marcher d'une façon digne de leur appel. Il les a invités à revêtir l'homme nouveau et à être remplis de l'Esprit. Dans leurs relations interpersonnelles, il a demandé aux chrétiens de se soumettre les uns aux autres. La marche chrétienne ne se fait pas dans le vide. Nous devons lutter contre le monde et la chair. Nous avons déjà vu cela dans cet épître. Il reste un troisième ennemi, le diable. Chers amis, il n'y a qu'un chemin. Tout chrétien est engagé dans ce combat spirituel, qu'il le désire ou non. Lorsqu'un pays est envahi, tous ses habitants sont engagés dans le combat, qu'ils le désirent ou non. L'enseignement du reste de cet épître est essentiel pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'être préparés au combat. L'enseignement de la moralité par l'Église ou d'une autre source n'est pas suffisant. Le monde ne comprend pas ce qui s'y passe. Il ne voit pas la guerre spirituelle. Le message de l'Évangile est le seul qui apporte une solution aux problèmes du monde. Il n'y a qu'un chemin. Le christianisme biblique n'est pas une philosophie parmi d'autres, un de plusieurs choix que l'on peut faire. Il est la seule et unique solution. Notre théologie doit guider nos pas. Si les chrétiens n'accomplissent pas fidèlement leurs devoirs quotidiens, ils ne peuvent pas avoir de grandes victoires spirituelles ni d'accomplissements majeurs dans leur vie chrétienne. Je suis fatigué des personnes qui affirment être de foi chrétienne évangélique, mais qui ne sont pas prudents dans leur marche chrétienne et qui ne vivent pas conformément à la doctrine exaltée qu'ils affirment croire. Nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est merveilleux. Mes amis, nous vivons ici sur terre et notre théologie doit guider nos pas. Si vous ne vivez pas d'une façon qui plaît au Seigneur Jésus, vous perdez votre temps à assister à des conférences chrétiennes et à aller à l'école du dimanche. Souvent, dans nos milieux chrétiens, nous observons des personnes remplies d'amertume, de désir de vengeance et même de haine. Cela fait énormément de tort à la cause du Seigneur Jésus. Comment se fait-il que nous portions si peu de fruits tout en recevant l'enseignement exalté de la parole de Dieu? Plusieurs personnes croient aux doctrines fondamentales de la Bible, mais elles se conduisent en personnes libérales. Nous sommes toujours en danger de penser que nous n'avons besoin que d'une connaissance intellectuelle pour bien exprimer notre position et nos valeurs, tout en n'étant pas prudents dans notre marche chrétienne. Nous agissons ainsi parce que nous ne comprenons pas la véritable nature du combat. Le combat spirituel se livre là où la parole de Dieu est proclamée. Je ne pense pas que le diable concentre ses forces sur les clubs de nuit, les clochards et le crime organisé. Il réserve ses forces pour les églises, le dimanche matin. Le diable livre une guerre spirituelle et peu de chrétiens s'en rendent véritablement compte. La plupart d'entre eux dorment. Spirituellement. Les chrétiens cherchent à fermer des clubs de nuit, des maisons de prostitution, alors qu'ils devraient, premièrement, fermer leur bouche et cesser de faire de la médisance, de dire des calomnies et de critiquer tous et chacun. Le diable ne travaille pas là où nous pensons en général. Le samedi soir, il ne fait pas la fête en ville. Il s'est couché tôt pour aller à l'église le lendemain matin. Le combat spirituel se livre là où la parole de Dieu est proclamée, là où une église prend position pour la cause de Dieu. Ce sont ces endroits que le diable veut détruire, et c'est là qu'il concentre ses forces. C'est là que se livrent les combats spirituels, dans une église ou dans un foyer engagé envers la parole de Dieu. Parfois, l'endroit le plus dangereux où se trouver est dans une église le dimanche matin. Quel était l'endroit le plus dangereux à Jérusalem le soir de l'arrestation de Jésus? Ce n'était pas chez les pharisiens. Ce n'était pas chez les gangs criminels. C'était dans la chambre haute où se trouvaient Jésus et ses disciples. Pourquoi? Le diable s'était joint à eux ce soir-là. C'est là qu'il est entré dans Judas l'Iscariote pour l'inciter à trahir Jésus. Le diable était présent parmi les disciples. Pierre et Judas peuvent vous confirmer que la chambre haute était l'endroit le plus dangereux de Jérusalem ce soir-là. Nous devons nous rendre compte de l'endroit où est livré le combat spirituel. Rappelez-vous, au début de notre étude de l'Épître, nous l'avons comparé au livre de Josué. Nous pouvons faire un parallèle entre ce qu'est le livre de Josué à l'Ancien Testament et ce qu'est l'Épître aux Éphésiens au Nouveau Testament. Josué a fait traverser le Jourdain aux enfants d'Israël pour les conduire dans le pays de Canaan où ils ont fait face à des ennemis. Ils ont dû livrer des combats et remporter des victoires dans la terre promise. Le Jourdain n'est pas une image de notre mort et la terre promise n'est pas une image du ciel. Ils sont une image de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous et moi passons par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus du désert de ce monde au pays de Canaan. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu devrait vivre en Canaan. Rappelez-vous que Canaan ne représente pas le ciel. Ce ne peut être le cas car il y a des ennemis en Canaan et il est nécessaire de combattre. les croyants font leur service militaire pour la cause de Dieu. L'ennemi des soldats est identifié et la bataille se déroule sous nos yeux. Le chrétien lutte contre le monde. Lorsque Josué est entré en terre promise, il dut faire face à trois ennemis. Premièrement, il y eut la ville de Jéricho qui se tenait sur son passage. Jéricho est une image du monde. Ce que Jéricho était à Josué correspond à ce que le monde est aux chrétiens. Dieu dit à Josué de marcher autour de la ville, non de la combattre. Nous ne pouvons pas vaincre le monde en le combattant. Essayer de le faire est une erreur, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. Nous pouvons seulement vaincre le monde par la foi en Jésus-Christ. Nous réclamons la victoire qu'il nous a acquise. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Les choses du monde passeront et le chrétien ne doit pas s'y attacher. Notre expérience sur terre doit correspondre à celle des enfants d'Israël en Canaan. Le chrétien lutte contre la chair. Le deuxième ennemi auquel Josué dut faire face fut la petite ville d'Aï. Celle-ci représente la chair. Josué a cru qu'il n'était pas nécessaire de déplacer toute l'armée pour prendre Haï. Donc, il n'envoya que quelques milliers d'hommes, mais ils se sont fait donner une raclée. Lorsqu'il revint de la défaite, Josué se jeta face contre terre et cria à l'Éternel. Celui-ci lui répondit, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. » Josué, chapitre 7, versets 10 et 11. Israël devait confesser son péché et l'ôter de son milieu avant que Dieu accorde une nouvelle victoire. C'est ce que vous et moi devons faire pour vaincre la chair. De nombreux chrétiens ont la victoire sur le monde. Ils marchent autour de Jéricho en sonnant de la trompette, comme l'ont fait les enfants d'Israël. Ils disent, « Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Cependant, ils sont défaits par la chair. Ils ne contrôlent pas leurs émotions. Ils s'adonnent à la médisance. Un jour, un homme chrétien dit, « Pourquoi est-ce que je mens au sujet de tout ?» Bien, c'est ce que la chair fait. La chair réussit à vaincre plusieurs d'entre nous, mes amis. Dieu doit protéger le chrétien du diable. Troisièmement, Josué fut aux prises avec les habitants de Gabaon. Ces gens furent rusés. Ils habitaient non loin de Jéricho, mais en prenant du pain sec et des vêtements usés, ils firent croire à Josué et aux anciens d'Israël qu'ils venaient de loin. La délégation vint vers Josué et lui dit, « Frère, nous avons entendu parler de vous. Nous savons comment Dieu vous a libéré de l'Égypte et qu'il vous a accordé des victoires sur Sion et Og. Nous désirons faire une alliance avec vous et être vos amis. » Nous trouvons le récit de cet incident au chapitre 9 du livre de Josué. C'est ainsi que le diable approche les chrétiens. Il est le père du mensonge et ses serviteurs se déguisent en anges de lumière. Dieu a souvent demandé à son peuple de le suivre au combat. Il a combattu avec son peuple pour lui accorder des victoires. Cependant, notez que lorsque l'attaque fut satanique, c'est Dieu qui a protégé Israël. C'est Dieu qui protège les siens, chers amis. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes des soldats de Christ, et qu'il y a une guerre spirituelle. Le diable est très subtil, chers amis. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet enseignement concernant l'ennemi. Nous avons besoin d'étudier les ruses de l'ennemi et comment y faire face. C'est ce que l'enseignement ici nous apporte. Il est précieux pour notre vie spirituelle et de tous les jours. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens, chapitre 6, cette fois les versets 10 à 12.
Merci, Régent, d'avoir apporté des éclaircissements sur un tel sujet. La parole du Dieu vivant nous éclaire vraiment dans notre marche chrétienne de tous les jours. J'ai travaillé pendant plus de 13 ans pour une grande société canadienne. Dans cette société, le syndicat était très puissant. J'avais même l'impression que les employés se montraient souvent plus fidèles à leur syndicat qu'à leur employeur. Dans cette situation, les relations étaient souvent tendues et malsaines entre employés et patrons. Et il y avait de l'abus de part et d'autre, à mon avis. L'atmosphère de travail n'était pas très agréable. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel pendant cette période de ma vie, et j'ai vite réalisé le combat qui se présentait devant moi, dans mon milieu de travail, si j'allais mettre en pratique ce que la Bible demande. Allais-je être fidèle à mon patron et à mon syndicat en même temps? Dirais-je la vérité? Allais-je être honnête avec la gestion de mon temps au travail? Je n'ai pas toujours été fidèle, et je trouvais cela difficile de l'être lorsque je voyais un collègue de travail abuser. Et j'étais même souvent mal à l'aise de prendre position en me basant sur mes convictions. Je trouvais cela toujours plus facile de prendre le côté de la majorité. Après tout, qui aime se faire pointer du doigt ou se faire rejeter? Mais un jour, avec la force de Dieu et à la surprise générale, j'ai pris position. J'ai affiché mes couleurs. Je n'allais plus prendre part aux activités illégales avec la majorité des employés. En posant un tel acte, que je savais selon la volonté de Dieu parce que soutenu par l'enseignement de la Bible, j'ai retenu pour sûr l'attention de mes collègues de travail. Il m'est arrivé de recevoir quelques menaces, mais c'est tout, seulement des menaces. Mais d'autres ont été touchés, au cœur, et ont voulu savoir pourquoi je prenais un tel risque. Cela m'a ouvert une porte pour que je leur raconte mon histoire et comment Jésus avait transformé ma vie. Oui, j'ai souvent encore aujourd'hui des luttes intérieures lorsque je fais face aux attraits de ce monde. Mais je sais que Dieu est aussi avec moi pour me soutenir et me donner de vaincre ces tentations. Et ainsi, je reste en paix avec Lui et avec ceux qui m'entourent, autant que cela dépend de moi. Ma relation avec Dieu est plus importante et m'apporte beaucoup plus que tout ce que le monde peut m'apporter dans ses attraits. Je le sais parce que je l'expérimente à chaque jour. La bonté de Dieu vaut bien mieux que tout ce que la vie de ce monde peut nous apporter. Je trouve la parole de Dieu très pratique quand elle enseigne au sujet des relations. Elle nous dit d'aimer les autres, de les respecter, de les écouter, de leur apporter une parole de grâce. C'est clair, mais là où j'ai besoin d'aide, c'est dans la force intérieure pour cultiver de bonnes relations envers tous. Cette force intérieure pour aimer les autres, Dieu nous la donne par le Saint-Esprit, lorsqu'il vient régner dans nos vies. Merci, Seigneur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.